Radio Okapi.
Journal présenté par Jean-Désiré Kanyama.
L'Assemblée nationale a rejeté hier mercredi la motion de défiance contre le ministre des Transports, Chérubin Okendé. Plusieurs députés l'ont jugé alimentaire, inopportune et non fondée après un long débat sur sa pertinence et son opportunité. Nord Kivu, la société civile du territoire de Nyiragongo déplore les assassinats entre vendredi et mardi dernier d'au moins 3 jeunes par des militaires incontrôlés dans les villages Kizibade et Turunga. L'administrateur du territoire, lui, confirme l'arrestation d'un soldat aux terres du meurtre de samedi dernier. L'invité de ce journal est le gestionnaire du patrimoine de la société cotonnière de la région sud, comprenant les provinces du Kassai oriental et de l'Omami. En guise de clôture de notre série sur la filière de coton en RDC, Rémi Tibambe Kazadi dresse l'état des lieux de la société cotonnière. Mesdames, Messieurs, bonjour. Après sa participation au African Summit 2022 à Londres, le président de la République, Félix Tshisekedi, a été reçu hier mercredi par le roi Charles III. Selon la presse présidentielle, rien n'a filtré de ce tête-à-tête de près d'une heure avec le souverain de la couronne britannique. La même source renseigne que la rencontre a été d'une haute portée symbolique, d'autant plus que le président Félix Tshisekedi est parmi les premiers dirigeants africains reçus par Charles III depuis son avènement. À l'occasion de la présentation des lettres de créance du nouvel ambassadeur du Royaume-Uni à Kinshasa, la présidence congolaise et les nouveaux diplomates britanniques avaient fait part de leur intention de raffermir les relations bilatérales entre Kinshasa et Londres, précise la presse présidentielle. Revenons à Kinshasa. Je le disais au sommaire, l'Assemblée nationale a rejeté hier mercredi la motion de défiance contre le ministre des Transports, Chérubin Okendé. Après un long débat sur la pertinence et l'opportunité de cette motion, plusieurs députés l'ont jugée alimentaire, inopportune et non fondée. Suite à une motion d'ordre puis incidentielle de Jacques Joly, l'Assemblée nationale a voté pour l'arrêt des débats et le rejet de la motion. Le ministre Chérubin Okendé est donc sauvé et continue à assumer valablement ses fonctions au ministère du Transport et Voies de Communication. Plus de détails avec vous, Michel Kifindangoy.
Dans sa motion de défiance, le député Anissé Babanga accuse le ministre Chérubin Okendé d'incompétent et amateuriste dans le domaine des transports. Lors du débat, la majorité des députés ont jugé cette motion non fondée et inopportune. Délice Sanga.
Parce que quand on dit qu'il est responsable des avions qui ne sont pas venus, mais bon, peut-être que les collègues ne le savent pas, c'est pas lui qui paye les avions. On dit qu'on n'a pas de permis depuis 5 ans. Et dans la même motion, on dit qu'il est en charge du ministère depuis 1 an. Pourtant, toutes ces contradictions, cette motion est mal dirigée et par conséquent, l'Assemblée nationale devrait la rejeter en bloc.
Intervenant par motion d'ordre, le député national Jacques Joly a sollicité et obtenu l'arrêt du débat avant que Charles Nawej plaide pour le rejet de la motion de défiance.
Si vous autorisez que mon intervention se transforme en motion incidentielle, je sollicite à ce qu'on puisse rejeter la motion contre le ministre, ce qui nous permet de clôturer ce débat et c'est la voie de la sagesse.
À l'issue du vote à main levée, une majorité écrasante des députés ont tiré le ministre Chérubin Okendé des griffes de pétitionnaire.
Nord Kivu, au moins 3 jeunes ont été tués, un autre blessé par des militaires incontrôlés ou des bandits armés entre vendredi et mardi dernier dans le village Kizibade et Turunga. C'est au nord de la ville de Goma, en territoire de Nyiragongo. Les derniers cas est celui du jeune Eliat Gatama, de 19 ans, tué chez lui vers 19h30 mardi dernier. Le président de la société civile territoire de Nyiragongo, qui déplore cette situation, dénonce des cas de tracasserie impliquant certains éléments des forces de l'ordre dans cette zone. Mambo Kawaya Jean-Claude demande des mesures urgentes pour une solution. Il a été joint par Bernard Ndjangi.
Les villages Kizibade, il ne se passe pas une nuit sans qu'il y ait un cas de l'insécurité perpétré des fois par des éléments FARDC, d'autre part par des bandits armés. Et la nuit du mardi au mercredi, un jeune homme âgé de 19 ans, vendeur de crédits illités, a été logé des balles au ventre et la personne a succombé sur le champ. Ce que nous déplorons. Même des personnes qui venaient au secours ont été dispersées par ces mêmes bandits. Vous rappelez que le samedi passé, vers 20h30, il y a eu un autre cas d'assassinat d'un jeune homme qui lui a été tué par un militaire FARDC, ce qui avait même conduit à la manifestation de colère de la part de la population. Il y a trois criminels qui ont été tués par justice populaire hier dans la partie de Turunga. La nuit, l'avant-hier, on a encore assassiné un jeune du nom de Esaïe au niveau de la même partie de Turunga. Nous déplorons cet acte parce que ça devient récurrent, qui nécessite vraiment l'intervention de la part des autorités qui détiennent la sécurité entre leurs mains.
L'administrateur du territoire de Niragongo, le colonel Patrick Idouma, affirme que le militaire auteur du meurtre de samedi dernier est déjà aux arrêts et son unité a été permutée. Il ajoute qu'une réunion de sécurité élargie au chef de village a été convoquée hier mercredi au chef-lieu du groupement Moudja pour statuer sur cette question. Pendant ce temps, au sud Kivu, la ville d'Ouvira est désormais dotée d'un plan d'action de sécurité pour les 14 quartiers et 4 groupements incorporés, dont Kagando, Kaala, Kabindula et Kitundu. Ce document, reconnu par le ministère provincial de l'Intérieur du sud Kivu, a été remis hier mercredi aux membres du conseil urbain de sécurité, aux représentants des communautés ethniques et mutualités ainsi qu'aux services étatiques d'Ouvira. Des détails avec Fiston Goma.
Ce plan d'action de sécurité s'inscrit dans un contexte général du programme ESPER, Ensemble pour la paix et la sécurité à l'est de la RDC, financé par le Royaume du Pays-Bas. Il s'aligne à la politique étatique de stabilisation des zones sortant des conflits armés STAREC, fusionné avec le programme national du PDDRCS. Ce document explique un diagnostic qui est passé par le renforcement des capacités des acteurs étatiques et non étatiques sur la gouvernance sécuritaire, le fonctionnement des comités locaux de sécurité de la ville d'Ouvira et l'identification des acteurs positifs. Et négatif. En moyenne, 85 personnes venant de différentes structures ont participé activement aux assises, parmi lesquelles des représentants des chefferies et groupements, des jeunes, femmes et confessions religieuses, ainsi que les mutualités avec la société civile. Ils ont identifié 8 problèmes sécuritaires qu'ils ont diagnostiqués sous forme de tableaux reprenant les causes et les actions à entreprendre, ainsi que des recommandations. Parmi ces problèmes évoqués, l'activisme des groupes armés locaux et étrangers, ainsi que les problèmes sociaux dont les conflits fonciers. Le maire de la ville d'Ouvira, Mouato, a appelé toutes les parties prenantes et à tous les niveaux à s'impliquer dans le processus de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation de ces plans d'action de sécurité. D'Ouvira, Fistongo Mamayabal, Radio Okapi.
Parlons de ce plaidoyer de l'ONG Cause Rurale en faveur des survivantes de violences sexuelles et celles basées sur le genre dans les provinces de Maïndombe, Kwango, Kwilu et Congo central. Dans un atelier organisé hier mercredi à Kinshasa, la coordonnatrice nationale de cette ONG a révélé l'inexistence des tribunaux, parquets et services pénitentiaires dans cette partie du pays, mais aussi la baisse du niveau de l'éducation des jeunes filles. Pelagie Makiedika recommande, entre autres, au ministère de la Justice de faciliter l'accès à la justice aux familles affectées par ces violences à travers la réduction des frais de justice. Pelagie Makiedika est au micro de Paul Matendo.
Maintenant, on est envahi par un conflit qui a aussi déjà enregistré plusieurs survivantes, des déplacés internes, parmi lesquels la majorité des femmes et des enfants. Au regard du constat fait sur le terrain, les magistrats en province occasionnent parfois des arrangements à l'amiable entre familles, des bourreaux et des survivants. Je prends les cas des territoires éloignés comme Kasongo-Lunda et Yumbi. La distance pour atteindre les institutions judiciaires, c'est tout un problème. Donc il y a un problème d'accès à la justice pour les populations rurales. Le territoire de Kasongo-Lunda, il n'y a aucun magistrat à ce jour. Au niveau du ministère de l'EPST aussi, on a fait une recommandation pour que les questions de genre soient vraiment prises en compte et surtout que ça concerne les filles. Au niveau des partenaires techniques, comme j'ai dit, de prendre en compte aussi cette question, c'est grave dans la province ouest. Hier, on parlait du conflit à l'est, mais maintenant c'est à nos portes et nous ne savons pas qui sera victime demain.
Retour au Nord Kivu, où une peine de 10 ans de prison ferme a été requise par le ministère public contre Fiston Isambiro, l'un des membres du groupe de pression de la Véranda Mutsanga à Beni. C'était hier mercredi devant la cour militaire du Nord Kivu, siégeant en matière répressive au second degré dans la ville de Beni. Le prévenu est poursuivi pour plusieurs greffes, notamment la menace d'attentat et la provocation à la désobéissance aux lois de la République. André Kitenge pour les détails.
C'est ce mercredi, au deuxième jour de l'audience, que le ministère public a requis la peine maximale de 10 ans de prison ferme contre Fiston Issambiro, l'un des leaders du groupe de pression de la Véranda Mutsanga à Beni. C'était devant la cour militaire du Nord Kivu siégeant en matière répressive au second degré dans la ville de Beni. Le ministère public a demandé à la cour de dire recevable et non fondé l'appel interjeté et de reconduire l'œuvre du premier juge en le condamnant à 10 ans de prison ferme. Il a estimé que le prévenu s'était rendu coupable de plusieurs faits lui reprochés, notamment la menace d'attentat et la provocation à la désobéissance aux lois de la République. Pour la défense, le juge d'appel n'est pas tenu de suivre les réquisitoires du ministère public. Elle pense qu'il n'y a pas suffisamment de preuves pour établir la responsabilité de leur client dans les faits évoqués. L'un de ses avocats, Maître Eli Vaumawa, relève également l'insuffisance des motivations dans l'œuvre du premier juge. Il plaide pour l'acquittement pur et simple de son client Fiston Issambiro et le renvoyer de toute fin de poursuite. Le verdict est attendu le lundi 24 octobre prochain. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Dans le même chapitre, ici à Kinshasa, la justice militaire recherche la vérité sur l'assassinat de l'ancien ambassadeur d'Italie en RDC, Luca Attanasio. Le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Gombe a ouvert le procès longtemps attendu sur cet assassinat. C'était hier mercredi à la prison militaire de Ndolo où ce tribunal militaire a pris la cause en délibéré pour un jugement avant dire droit le 26 octobre prochain. Et c'est en rapport avec deux exceptions soulevées par la défense. Éclairage de Jeff Ngoy.
Commencé le 12 octobre, le procès a été suspendu à la demande des avocats de la défense qui ont souhaité prendre connaissance du dossier. À sa reprise hier, le tribunal n'a pas instruit le fond, car la défense a contesté sa compétence face à des civils arrêtés à Goma début 2022. Elle a également réclamé leur mise en liberté provisoire. Mais pour le ministère public, ces accusés comparaissent pour meurtre, assassinat, association de malfaiteurs et détention illégale d'armes et munitions de guerre, prévention relevant de la compétence du tribunal militaire. Rien ne peut ainsi justifier leur liberté et étant donné la gravité des faits, a-t-il déclaré. Six prévenus, dont un à cavale, et jugés par défaut, comparaissent devant ce tribunal. Ils clament leur innocence pour des faits qui se sont déroulés en février 2021, année au cours de laquelle l'ambassadeur italien a été tué par balle après avoir été pris dans une embuscade dans l'est de la RDC. Son garde du corps italien, le carabinier Vittorio Lacovacci, et un chauffeur congolais du PAM, Mustapha Milambo, ont été aussi tués.
Au Kasaï central, le gouvernement provincial voudrait que la commission Vérité, Justice et Réconciliation dispose d'un budget conséquent pour son fonctionnement. Ce plaidoyer émane de la Commission nationale des droits de l'homme qui constate que cette commission n'a toujours pas de moyens et de bureaux pour faire son travail. À en croire le coordonnateur provincial, cela peut se faire à travers une ligne dans le projet du budget qui sera disposé à l'Assemblée provinciale. Explication de François Kadima.
C'est depuis des mois que les membres de la commission Vérité, Justice et Réconciliation ont été investis par le gouverneur du Kasaï central. L'institution a été créée à travers un édit adopté par l'Assemblée provinciale à la suite des consultations populaires organisées par rapport au conflit de Kamuina-Nsapu. Pour son travail, cette commission, qui a pour mission d'apporter la lumière sur ce qui s'est passé dans la région, devrait être dotée d'un budget pour son fonctionnement par la province. C'est dans ce cadre que la CNDH, qui constate que la commission dont les membres ont été investis par le gouverneur de province, n'a toujours pas de fonds pour son travail, demande un budget conséquent pour son fonctionnement. À en croire le coordonnateur provincial de la CNDH, le gouvernement provincial peut simplement créer une ligne dans le projet du budget qui sera déposé à l'Assemblée provinciale. Maître Vincent Kayembe.
Qu'il y ait assez de moyens pour permettre à la commission de mener des actions de terrain. Il y a moyen de pouvoir créer cette ligne budgétaire, intégrer directement le budget de la commission. C'est ça même l'idée, l'esprit de l'édit en ce qui concerne la dotation.
Le coordonnateur provincial de la CNDH n'exclut pas l'appui de partenaires qui ont soutenu la création de cette commission pour le Kasaï central. Notons qu'elle a un mandat de 3 ans selon l'esprit de l'édit, portant sur sa création. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Et tout à fait autre chose à présent, l'approvisionnement mondial tendu en vaccins contre le choléra a obligé le groupe international de coordination, organisme qui gère les approvisionnements d'urgence en vaccins, à suspendre temporairement le schéma vaccinal standard à 2 doses dans les campagnes de riposte aux flambées de choléra, en utilisant plutôt une approche de dose unique. L'ICG l'a fait savoir dans un communiqué publié hier mercredi. Le pivot de la stratégie permettra d'utiliser les doses dans un plus grand nombre de pays à un moment d'augmentation sans précédent des épidémies de choléra dans le monde. Depuis janvier de cette année, 29 pays ont signalé des cas de choléra, dont Haïti, Haïti, le Malawi et la Syrie qui sont confrontés à d'importantes flambées épidémiques. En comparaison, au cours des 5 années précédentes, moins de 20 pays en moyenne ont signalé des flambées, indique le communiqué. Ce même communiqué précise que la stratégie à dose unique s'est avérée efficace pour répondre aux flambées épidémiques, même si les données probantes sur la durée exacte de la protection sont limitées et que la protection semble être beaucoup plus faible chez les enfants, avec un schéma posologique à 2 doses. Lorsque la deuxième dose est administrée dans les 6 mois suivant la première, l'immunité contre l'infection dure 3 ans.
Actualité internationale.
En Guinée, les procès du 28 septembre 2009, où 157 personnes avaient été tuées et une centaine de femmes violées dans l'enceinte du stade de Conakry, se poursuit. La journée d'hier mercredi a été marquée par la première comparution de Aboubakar Sidiki Diakité, dit Toumba, ancien aide de camp du capitaine Moussa Dadis Camara, alors président de la junte au pouvoir. Au Mali, les projets de loi sur la militarisation de la police doivent être examinés ce jeudi par le Conseil national de transition. Ce projet d'intégrer les forces de police, mais aussi la protection civile, donc les pompiers, à l'armée, a été révélé à la surprise générale début octobre. Bamako veut permettre le déploiement des policiers dans les zones reprises par l'armée aux groupes djihadistes. Les syndicats des policiers attendent des précisions et dénoncent un texte unilatéral.
L'invité.
L'invité de ce journal est le gestionnaire du patrimoine de la société cotonnière de la région sud, comprenant les provinces du Kasaï oriental et de l'Omami. En guise de clôture de notre série sur la filière coton en RDC, Rémi Tibambe Kazadi dresse l'état des lieux de la société cotonnière. C'est dans un entretien avec Esther Ndalafina.
Bonjour, monsieur Rémi Tibambe Kazadi. Quel est l'état des lieux de la société cotonnière dans la province du Kasaï oriental et de l'Omami?
La cotonnière que vous voyez, c'est une grande société, une société agro-industrielle et commerciale. C'est une société qui s'occupe de la culture du coton, de l'égrenage et puis de la transformation de ses graines et la vente de son produit fini qui est le coton fibre. Mais cette société qui jadis faisait la fierté du Kasaï oriental à son temps, parce que cette société qui aidait toutes les autorités de la province dans leur déplacement. Et cette société absorbait le chômage parce qu'elle encadrait plus de personnes. Comme on est dit ici, on avait un personnel de l'ordre de plus ou moins 300 personnes. Kandanjika, n'en parlons pas, Lopota, n'en parlons pas, Kapinda, Bao, Kisengwa, Kamana, Mani, Kasong, Wamaza. Donc cette société avait en sa charge un grand nombre du personnel, quoi. Alors c'est une société qui produisait du coton. On savait grainer ce coton pour produire le coton fibre qui était vendu. Les cotons graines nous donnaient des cotons fibres. Et ces cotons graines nous donnaient les graines de coton, nous donnaient les mottes et nous donnaient les tourteaux.
C'est quoi même le coton, monsieur Rémi?
Le coton est une culture qui entraînait derrière elle 2 ou 3 petites industries. Il y avait d'abord les graineuses pour séparer les graines de coton fibre. Et puis les graines, on les broyait, nous donnait l'huile de coton. On fabriquait les savons qu'on appelait savon d'Anda. Il y avait les savons bruns, hein, noirs comme le café, qui servaient à la lessive, même aux toilettes. Bon, l'huile végétale était consommable. Alors, quand on extrait l'huile de coton, il y a les amandes qu'on appelait les tourteaux qui servaient à la restauration de bêtes, parce qu'on envoyait ces cotons à Kanyama, Kamina et consorts, où ceux qui a élevé des bœufs s'approvisionnaient à partir d'ici. Donc nous avions ici à Mouanadito l'industrie, la séparation des graines, nous avions la minoterie, la fabrication d'huile, comme c'est comme on appelle colo-huile, parce qu'on produisait l'huile et les cotons. Et cette même activité s'est passée aussi à Katanga, même à Kandanjika aussi. Ça c'est la genèse. Donc c'était d'abord la Kombelka, la Kolkoton, la Kortonko et la Komindagri. Bah, c'était des sociétés sœurs. Hein. Une d'elles s'est chargée de la production, encadrer les planteurs, une autre s'est chargée de l'industrialisation, une autre s'est chargée de la vente ou la commercialisation. Parce qu'on vendait, les cotons fibres auprès de l'Utex Africa, de la Sonteskine, d'Amato Frère, de Solbena et consorts. Alors là, on produisait les blankets, les pièces d'âme, les watts, des bandes cambriques et consorts.
Qu'est-ce qui a fait que cette société tombe en faillite?
L'indépendance est arrivée et on va zérianiser la société. C'est que ça soit appelé Comidangri, c'est devenu l'Onafitex. Maintenant, l'État qui avait pris le tout en charge et l'État a connu aussi des difficultés. C'est ainsi que vers les années 80, l'Onafitex est tombé. Vers 81, Mobutu a promulgué une loi qui créant la cotonnière du Kasaï et du Maniema, la présente cotonnière que nous avons. On a continué pendant un temps. À un moment donné, les difficultés se sont présentées. Chez nous, nous sommes ici qu'on appelle la région sud, notamment Mouanadito, Lopota, Nganjika et qu'attendant. Il y a des paramètres qui ont fait qu'on puisse encore fermer. Comme chez nous ici, c'est le sable. Le sol est devenu un peu pauvre. Le rendement était devenu médiocre par rapport au rendement de l'Ubao et du Maniema. Et on a laissé seulement un service de maintenance. Alors, la cotonnerie est restée évoluée de l'autre côté, Maniema, l'Ubao et consort. Mais au vu des difficultés pour l'expédition de balles de coton, parce que le coton venait maintenant du Maniema, passant par Kamina pour descendre à Ilebo, ce coton-là connaissait des difficultés. Alors il fallait qu'on réouvre ici, on a dit tout. On a réouvert. Quand on a réouvert en 93, nous avons travaillé. On a utilisé le système de volontariat. Dans un village où il y a 3-4 personnes ou 10 personnes, on encadre ces 10-là volontairement. De tout le temps-là, on distribuait les graines gratuitement et on achète le coton. Distribuait aussi les produits phytosanitaires et les matériels aratoires. C'est-à-dire que les houles, les machettes, les pioches et consorts. Donc, quand on a réouvert, cette histoire-là a cessé, mais on est récemment avec le système de pouvoir remettre gratuitement les graines. Les gens produisent, on les achète. Mais avec les dégâts qui se sont succédés, on fait que la société puisse s'arrêter chez nous ici. Mais dommage est que nous-mêmes, nous sommes en train de détruire nos biens. Il y en a qui se polluent la société pendant que la société a encore une longue vie. La vie de la société va jusqu'en 2099.
D'après vous, M. Rémy, y a-t-il moyen de relancer les activités de la société cotonnière? Qu'est-ce qui peut être fait concrètement?
Cette société, comme j'ai dit, a encore une longue vie. Cette vie va jusqu'en 2099. La société cherche à actualiser ses activités.
Merci beaucoup. Rémy Tshibambe Kazadi.
C'était notre invité, le gestionnaire du patrimoine de la société cotonnière de la région sud, comprenant les provinces du Kassai Oriental et de l'Omami. Rémy Tshibambe Kazadi s'entretenait avec Esther Ndalafina. Merci de continuer à réécouter ce journal sur toutes les plateformes digitales de Radio Kapi.